Lizzie présente L'infini des possibles de Laurie Nelson Spillman. Lu par Catherine Griffoni et Lila Tamazit. Prologue. Il y a bien longtemps, dans la petite ville italienne de Trespiano, une certaine Filomena Fontana, femme quelconque et aigrie, dont la sœur cadette avait reçu de la nature le don de la beauté, condamna toutes les deuxièmes filles Fontana à une vie sans amour. Dès le premier instant où elle avait posé les yeux sur le bébé délicatement blotti dans les bras de sa mère, Filomena avait été jalouse de sa sœur Maria. Sa jalousie d'enfant ne fit qu'empirer quand les sœurs devinrent adolescentes. L'amoureux de Filomena, Hugo, garçon volage, s'enticha de la jeune Maria. Celle-ci avait beau repousser ses avances, Hugo ne désarmait pas. Filomena avertit donc Maria. « Si tu me prends, Hugo, tu seras maudite à jamais, et avec toi, toutes les deuxièmes filles de la famille. » Peu de temps après, lors d'un pique-nique en compagnie de la famille Fontana, Hugo attira Maria au bord de la rivière, pensant que personne ne les verrait là. Il l'attrapa et l'embrassa de force. Avant que Maria ne parvienne à le repousser, Filomena survint. Elle ne vit que le baiser et, furieuse, ramassa une pierre qu'elle jeta sur sa sœur. La pierre frappa Maria à l'œil. Elle perdit la vue et son œil se ferma pour toujours. La beauté de Maria était envolée et jamais elle ne devait se marier. Certains disent que c'est une simple coïncidence. D'autres soutiennent que c'est une prophétie autoréalisatrice. Mais personne ne peut nier ce fait. Depuis ce jour où Filomena jeta le sort, il y a plus de 2 siècles, aucune deuxième fille Fontana ne connut d'amour durable. Chapitre 1. Emilia. Aujourd'hui, Brooklyn. Devant moi refroidie sur une plaque de cuisson, 72 coquilles de cannoli. J'égoutte des cerises au marasquin coupées en dés, avant de les incorporer délicatement à un mélange de crème, de sucre et de ricotta. Je scrute la boutique depuis la cuisine à travers la fenêtre rectangulaire embuée. Lucchesi Bakery and Delicatessen est calme ce matin, comme souvent le mardi. Ma grand-mère, ma nonna, Rosa Fontana Lucchesi, se tient derrière le comptoir traiteur. Elle arrange les olives, les poivrons marinés et la feta dans leur bac en inox. Mon père pousse la porte à double battant en tenant un plateau où s'entassent des tranches de prosciutto. Il les transfère à l'aide d'une pince dans le compartiment réfrigéré des viandes, ajoutant une pile entre la pancetta et la coppa. Daria, ma sœur aînée, est debout derrière la caisse à l'entrée de la boutique. Adossée à la vitrine des bonbons, elle pianote sur son portable. Elle est sûrement en train d'écrire à une de ses copines, probablement pour se plaindre de Donnie ou des filles. Les haut-parleurs crachent une chanson de Dean Martin, « That's Amore ». Dernier appel de feu mon grand-père, qui soutenait que la musique italienne donnait une aura d'authenticité à son enseigne de boulanger-traiteur. Il s'agit en fait d'une chanson américaine chantée par un Américain, mais passons. Je n'ai rien contre les goûts musicaux de mon grand-père, si ce n'est que tout notre répertoire de musique italienne se résume à 33 titres. 33 chansons que je peux chanter, et chante parfois, mot pour mot, durant mon sommeil. Mon attention revient au cannoli. Je fourre la crème dans les 6 douzaines de coquilles. Bientôt, la musique s'éloigne, l'odeur des pâtisseries disparaît. Je suis très loin, dans le Somerset, en Angleterre, perdue dans mon histoire. Elle attend sur la jetée de Clevedon, contemplant la mer où le soleil couchant scintille sur les orridées. Une voix l'appelle. Elle fait volte-face, espérant trouver son amant. Mais là, tapi dans l'obscurité, son ex. Je sursaute quand sonne le carillon fixé au mur près de moi. Je chausse mes lunettes et regarde par la fenêtre. C'est Madame Fortino, un bouquet de marguerites orange et jaune à la main. Ses cheveux gris sont tirés en un chignon lisse et brillant. Son pantalon beige souligne sa minceur. Derrière le comptoir des viandes, mon père se redresse pour déployer son 1,77 m et rentre le ventre quittant son tablier. Nona regarde la scène, le visage aussi crispé que si elle venait d'avaler un verre de vinaigre.
Buongiorno, Rosa, dit gaiement Madame Fortino en passant devant le comptoir traiteur.
Nona détourne le regard en murmurant « Putana !» Comme d'habitude, Madame Fortino avance vers le miroir avant de s'approcher du comptoir des viandes de mon père. C'est une glace sans teint, ce qui signifie que sans le savoir, elle regarde la lucarne par laquelle j'observe la boutique. Je recule quand elle arrange ses cheveux et vérifie son rouge à lèvres, de la même nuance de rose que son chemisier. Satisfaite, elle virevolte vers le comptoir où se tient mon père.
« C'est pour toi, Léo, » fait-elle, souriante, en lui tendant les fleurs.
« Tss !» fait ma grand-mère, comme une oie mauvaise qui siffle sur quiconque ose jeter un regard sur son oison. Peu importe si l'oison en question est un gendre de 66 ans, veuf depuis près de 30 ans. Mon père, au crâne dégarni, prend les marguerites et rougit. Il remercie Madame Fortino comme chaque semaine et jette discrètement un coup d'œil à Nona. Celle-ci mélange les champignons marinés en faisant mine de ne pas s'intéresser le moins du monde à la scène.
« Bonne journée, Léo !» dit Madame Fortino en lui faisant joliment au revoir de la main.
« Toi de même, Virginia !» Les mains de mon père cherchent un vase sous le comptoir, mais ses yeux suivent Madame Fortino qui s'en va dans l'allée. Mon cœur se serre pour eux deux. Le carillon retentit de nouveau et un grand homme entre tranquillement dans le magasin. C'est le type qui est venu la semaine dernière acheter une douzaine de cannolis. L'inconnu élégant qui semble venir de Beverly Hills plutôt que de Brooklyn. Il parle avec mon père et Nona. Je m'approche de la porte pour saisir des bribes de leur conversation.
Sans conteste les meilleurs cannolis de New York.
Je laisse échapper un petit rire joyeux et presse l'oreille contre le mur.
J'en ai pris une douzaine la semaine dernière. Mon équipe les a dévorés. Je suis devenu le chargé de grand compte le plus populaire de chez Morgan Stanley.
Voilà qui fait plaisir à entendre, dit mon père.
Lucchesi Bakery and Delicatessen existe depuis 1959. Tout est fait maison.
Vraiment ?
Vous croyez que je pourrais remercier le pâtissier de vive voix ?
Je me redresse. A-t-il bien dit ce que j'ai entendu ? Je suis le genre de fille à rester en coulisses, la créatrice sans nom et sans visage des fameuses pâtisseries Lucchesi. Ces 10 dernières années, personne n'a jamais demandé à me rencontrer, encore moins à me remercier.
Rosa, dit mon père à Nona, vous pouvez aller chercher Emilia, s'il vous plaît ?
Oh, mon Dieu ! Je murmure. J'arrache le filet qui retient mes cheveux, libérant une épaisse queue de cheval brune que je regrette aussitôt de ne pas avoir lavée ce matin. Mes mains dénouent maladroitement mon tablier et redressent mes lunettes. Mécaniquement, je pose un doigt sur ma lèvre inférieure. Cela fait près de 20 ans, et la cicatrice, pas plus épaisse qu'un fil, est devenue lisse et a pris une teinte bleu pâle. Mais elle est là, juste en dessous de ma lèvre. Je sais qu'elle est là. Les doubles battants de la porte en inox s'ouvrent, laissant apparaître Nona Rosa, son corps trapu, intimidant et autoritaire.
« Une boîte de cannoli, presto !» ordonne-t-elle entre ses lèvres serrées.
« Si, Nona, bonne idée !» Je prends 3 cannolis, tout juste terminés pour les glisser dans une boîte. Mais alors que je me dirige vers la porte, elle me la prend des mains.
« Remets-toi au travail !» Tu as des commandes à préparer.
Mais, Nona, il...
C'est un homme très occupé. Inutile de lui faire perdre son temps.